Bon, décortiquons tout ça. Bonjour à tous les passionnés d'économie et à l'investisseur curieux qui cherche toujours à comprendre où se déplacent exactement les flux de capitaux. Bienvenue dans notre immersion du jour.
Bonjour.
Aujourd'hui, notre analyse se concentre sur une dynamique franchement fascinante qui est en train de se jouer dans le sud-ouest de la France en ce début d'année 2026.
Tout à fait.
L'objectif de notre exploration, notre mission en quelque sorte, c'est de décortiquer un dossier particulièrement pointu. On a sur la table un empilement de données.
Un gros empilement.
Un très gros empilement, dont le tout dernier rapport de courtage d'Aura Finance. Et ce rapport met en lumière une situation assez contre-intuitive. On va essayer de comprendre comment une ville périphérique d'environ 25 000 habitants, Libourne, est tout simplement en train d'aspirer les capitaux. Et de voler la lumière à la grande métropole voisine, Bordeaux. Et quand on regarde les données brutes, initiales, le contraste est absolument saisissant. On a l'impression d'observer un marché qui offre précisément tout ce que la métropole ne peut plus promettre.
C'est vraiment le cœur du sujet, en effet. Ce qui est fascinant ici, c'est d'observer la mécanique de ce qu'on appelle un marché de report.
D'accord.
Historiquement, le réflexe naturel, c'est de se ruer vers les hypercentres des grandes métropoles. On accepte des rendements très faibles, parfois même insignifiants, en se disant qu'on achète de la sécurité patrimoniale.
La fameuse pierre refuge, quoi.
Exactement, la pierre refuge. Mais la réalité de ce début d'année 2026, c'est que le marché bordelais a percuté un plafond de verre. Les prix sont trop hauts, la rentabilité est écrasée, et le capital, qui est pragmatique par nature, il cherche de nouvelles voies de ruissellement.
Et c'est là que Libourne entre en scène.
Voilà. Libourne illustre parfaitement cette transition. On n'est plus du tout sur un achat par dépit, où l'on s'éloignerait simplement parce qu'on n'a pas le budget pour le centre-ville. On est sur un achat de conviction.
Oui, on n'achète plus à Libourne juste par défaut.
Non, plus du tout. C'est un bassin de plus de 27 000 emplois salariés, situé stratégiquement au confluent de la Dordogne et de l'Isle. Et surtout, c'est un marché qui sort d'une période de correction très spécifique, ce qui crée une fenêtre de tir assez unique pour se positionner.
Eh bien, cette fenêtre de tir, elle saute aux yeux quand on lance le match des chiffres. Pour que ceux qui nous écoutent puissent bien visualiser la situation, posons un peu les bases tarifaires de ce début 2026.
Allons-y.
À Libourne, le prix moyen au mètre carré tourne autour de 2500 euros. Si l'on déplace le curseur sur le centre-ville de Bordeaux, on grimpe à environ 4400 euros. Le calcul est rapide, hein. Libourne est environ 45% moins cher.
45%, c'est massif.
45%. Le rapport d'Aura Finance donne un exemple qui est extrêmement parlant, avec un budget d'investissement de 150 000 euros.
Ah oui, l'exemple du budget type.
Voilà. À Bordeaux, avec cette enveloppe, on décroche péniblement un studio de 34 mètres carrés. C'est le grand classique. La cuisine est dans le salon, qui sert aussi de chambre. Si l'on invite des amis à dîner, ils sont pratiquement assis sur la plaque de cuisson.
C'est un peu ça.
En revanche, à Libourne, ces mêmes 150 000 euros permettent d'acquérir un T3 de 60 mètres carrés extrêmement bien placé. On parle d'un vrai confort, quoi. Des chambres séparées, un espace de vie où l'on respire, la possibilité d'avoir un bureau pour le télétravail.
Et cette différence d'espace de vie, elle est fondamentale car elle dicte le type de locataire qu'on va attirer au final. Mais pour vraiment saisir pourquoi le timing est optimal aujourd'hui, il faut regarder dans le rétroviseur récent de ce marché libournais.
Qu'est-ce qu'on y voit ?
2025, les prix ont baissé d'environ 2,3%.
Ce qui n'est pas une chute vertigineuse en soi.
Non, c'est une baisse modérée. Mais le véritable indicateur, ce n'est pas cette légère baisse des prix, c'est l'effondrement des volumes de transactions. On a enregistré une chute de 66% en 2 ans.
66% de ventes sans moins.
Oui, c'est le symptôme clinique d'un marché totalement bloqué.
Donc, si je traduis bien cette chute des volumes, on était dans un bras de fer assez classique. Les acheteurs ne pouvaient plus emprunter à cause de la hausse soudaine des taux qu'on a connue, et les vendeurs, par pure psychologie, ils refusaient d'accepter que leurs biens avaient perdu de la valeur par rapport au sommet de 2022. C'est bien cette inertie qui a gelé le marché, hein.
C'est exactement l'anatomie de cette crise de volume. Les vendeurs s'accrochaient à des prix d'une époque révolue. Cependant, la donne a changé.
Le dégel a commencé.
Voilà. Sur la dernière année glissante, les statistiques actent une reprise des prix de l'ordre de plus 1,7%, validée par 151 ventes concrètes en 2025.
151 ventes.
Ont enfin trouvé un nouveau point d'équilibre.
Et j'imagine que les banques jouent un rôle là-dedans.
Absolument. Ce qui vient catalyser ce redémarrage, ce sont les conditions de financement de ce mois de février 2026. Les taux de crédit sont de nouveau très compétitifs. Les excellents dossiers obtiennent 3% sur 20 ans.
3%, on est loin des pics d'il y a quelques années.
Très loin. La moyenne du marché se situe entre 3,27 et 3,48%. Et tout cela s'inscrit dans le sillage de la détente de l'OAT à 10 ans.
Attendez, juste pour être sûr qu'on vulgarise bien ce point technique pour les auditeurs. Quand on parle de l'OAT à 10 ans, on parle bien des obligations assimilables du Trésor, c'est-à-dire le taux auquel l'État français emprunte sur les marchés financiers.
C'est tout à fait ça.
Et c'est ce taux précis qui sert de boussole aux banques commerciales pour fixer les taux de nos crédits immobiliers fixes, n'est-ce pas? En gros, si l'OAT baisse, notre crédit devient moins cher.
C'est le mécanisme exact. L'OAT est la matière première de la banque. Et comme les anticipations des marchés tablent sur une baisse supplémentaire de l'OAT, eh bien on s'attend à ce que les taux de crédit aux particuliers perdent encore 0,10 à 0,20 points d'ici le second semestre. Les voyants macroéconomiques repassent donc franchement au vert.
Ce qui nous amène à la métrique reine, celle qui capte l'attention de n'importe quel analyste qui se penche sur un dossier. Le rendement locatif.
Le nerf de la guerre.
Exactement. Les sources évoquent un rendement brut moyen de 6% à Libourne. Aux vêtements, 6% face aux 3,5% ou 4% de Bordeaux, ça paraît presque trop beau. Mais soyons l'avocat du diable un instant.
Je vous en prie.
Afficher 6% de rentabilité dans une ville de seulement 25 000 habitants, n'est-ce pas prendre un risque massif sur la vacance locative? Je veux dire, si le principal employeur de la région ferme ses portes ou délocalise, est-ce que ce rendement théorique de 6% ne tombe pas brutalement à zéro parce qu'on ne trouve plus personne pour louer?
C'est la critique légitime que l'on fait généralement aux villes moyennes. Mais l'analyse des fondamentaux de Libourne invalide ce risque pour plusieurs raisons structurelles.
Lesquelles ?
La première raison réside dans la composition même de la population. À Libourne, 54,9% des habitants sont locataires.
Ah oui, c'est énorme !
C'est une proportion anormalement élevée pour une ville de cette taille, où l'on s'attendrait plutôt à une grande majorité de propriétaires occupants. Cela crée une profondeur de marché locatif très rassurante.
D'accord.
La preuve en est que les loyers se maintiennent à un niveau robuste, autour de 13 euros le mètre carré en moyenne. Ils ont même progressé de 8,33% récemment. Quand les loyers augmentent de 8%, cela prouve de manière empirique que la demande de logement reste largement supérieure à l'offre disponible.
Donc la demande est forte. Très bien. Mais si je lis bien entre les lignes du rapport, ce qui protège vraiment cet investissement, c'est que cette demande n'est pas monolithique.
Exactement.
On n'est pas suspendu à une seule usine locale. On a une véritable mosaïque de locataires. Il y a les navetteurs, ces jeunes actifs qui travaillent à Bordeaux mais préfèrent la qualité de vie libournaise. Il y a les familles qui ont besoin des fameux 60 mètres carrés dont on parlait tout à l'heure.
Tout à fait.
On trouve aussi des retraités qui cherchent un centre-ville où tout est accessible à pied. Et puis, il y a la composante saisonnière, avec le tourisme viticole. J'imagine que le fait de multiplier les profils de locataires potentiels, c'est la meilleure assurance vie pour un investissement immobilier.
La diversification des profils est le seul véritable bouclier contre les aléas économiques. Si le marché étudiant faiblit, le marché des jeunes actifs compense. Si le tourisme ralentit, les retraités maintiennent la demande.
C'est une stratégie de résilience.
Oui. Cependant, un bon rendement immédiat garantit des revenus, mais ne fait pas nécessairement la fortune patrimoniale. Ce qui transforme un bon achat en un investissement exceptionnel, c'est la création de valeur à long terme, la plus-value latente.
Et c'est là qu'il faut lever les yeux des tableurs financiers pour regarder ce qui se passe dans les rues.
Pour regarder les pelleteuses et les grues dans la ville, oui.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que Libourne n'est pas seulement une ville abordable, c'est un territoire en pleine mutation urbaine. Le rapport détaille le programme Libourne 2025, la Confluente. On parle d'une injection de 60 millions d'euros d'investissement public.
C'est un chiffre massif.
60 millions d'euros pour une commune de 25 000 âmes, c'est colossal. C'est le genre de budget qui change littéralement le plan de circulation, la physionomie des quartiers et, par effet domino, la valeur de la pierre.
Absolument. La transformation urbaine est le premier moteur de la valorisation immobilière. Et la pièce maîtresse de ce budget de 60 millions, c'est le PEM, le pôle d'échange multimodal, situé dans le secteur de la gare.
Alors ce PEM, concrètement, ça donne quoi sur le calendrier?
Les travaux qui ont débuté en 2025 se poursuivront jusqu'en 2029 pour une mise en service totale en 2030. Il ne s'agit pas juste de donner un coup de peinture à l'ancienne gare, attention. C'est une refonte totale de la mobilité cofinancée par l'Europe, l'État et la région.
Une vraie transformation.
On parle de la création d'un nouveau parvis, d'un parking silo de 400 places et des infrastructures hautement sécurisées pour les mobilités douces comme le vélo. Si l'on connecte ce projet à la géographie régionale, on comprend l'enjeu stratégique. La connectivité de cette ville est exceptionnelle. Paris est à 2h40 en TGV.
Ce qui est déjà très bien.
Oui, mais le vrai bouleversement, c'est le TER qui relie le centre de Bordeaux en moins de 30 minutes, avec 87 liaisons par jour.
87, quand on y pense, 30 minutes de TER pour aller travailler au cœur de la métropole, c'est souvent beaucoup moins de temps qu'il n'en faut à un habitant de la banlieue bordelaise pour traverser sa propre ville en voiture ou en tramway aux heures de pointe.
C'est évident.
C'est une bascule psychologique énorme pour un locataire. D'ailleurs, les chantiers ne s'arrêtent pas à la mobilité. On note que Libourne est la seule commune de Gironde à avoir été intégrée au dispositif national Action Cœur de Ville, un programme étatique spécifiquement conçu pour éviter que les centres-villes ne meurent au profit des zones commerciales périphériques.
Un point très important pour le charme de la ville.
Il y a donc des subventions pour rénover les façades, isoler les vieux bâtiments et ramener des commerces de proximité. Sans oublier la reconversion des anciennes casernes en complexe hôtelier et l'aménagement de la base de loisirs autour du lac des Daguès.
Tous ces éléments convergent vers une seule réalité pour l'investisseur. L'argent public prépare le terrain de la plus-value privée.
C'est une belle formule.
Mais attention, la ville n'est pas homogène. Si les infrastructures se développent, il faut savoir cartographier ces investissements. La stratégie dicte l'emplacement.
D'accord, alors comment on cartographie tout ça ?
Pour un investisseur dont l'objectif numéro un est la valorisation de son capital d'ici 10 ans, le secteur Garé-Épinette est la cible prioritaire. Les prix y sont encore légèrement inférieurs à l'hypercentre, mais l'impact direct du futur PM d'ici 2030 va inévitablement tirer les valorisations vers le haut. C'est une anticipation purement mécanique.
D'accord, la zone de la gare pour la plus-value future. Mais pour ceux qui ont d'autres objectifs, si on cherche à faire du déficit foncier ou à utiliser des dispositifs fiscaux liés à l'ancien, j'imagine que le centre-ville, le cœur de Bastide, est plus approprié.
Oui, tout à fait.
Avec ses bâtiments historiques et le programme Action Cœur de Ville, c'est parfait pour rénover et louer à des retraités ou des jeunes actifs qui veulent tout faire à pied. Et puis, si on déchiffre la carte plus largement, il y a des stratégies de niche.
Lesquelles avez-vous en tête ?
Le secteur des Daguets, par exemple. Près du lac, ça semble idéal pour de la location aux familles ou du saisonnier estival. Et, bien sûr, le secteur de Pomerol-Enéac.
Ah, là c'est un autre monde.
Là on change de dimension, on est dans le prestige international de la vigne. C'est la cible évidente pour du tourisme œnologique haut de gamme. Même si j'imagine que la simple étiquette Pomerol fait exploser le prix d'achat d'une bâtisse à rénover.
C'est certain, Sem. C'est une excellente lecture de la segmentation du marché. Chaque quartier répond à un business model différent. Toutefois, avoir le bon emplacement et la bonne demande locative ne suffit pas si l'ingénierie financière est défaillante.
Aïe, l'ingénierie financière !
Eh oui, la rentabilité de 6% dont nous parlions est une rentabilité brute. Or, ce qui compte à la fin de l'année, c'est la rentabilité nette, après impôt. Et pour optimiser cela, il est impératif d'ouvrir la boîte à outils fiscale de ce début d'année 2026, car la législation vient tout juste d'être bouleversée.
C'est le moment de parler fiscalité. Et les sources soulignent une nouveauté toute fraîche. Entrée en vigueur le 21 février 2026, c'est le dispositif Jean Brun. Il vient officiellement enterrer le dispositif Pinel, qui s'est éteint fin 2024.
Une page se tourne.
Si j'ai bien compris la mécanique de ce nouveau cadre, il permet de pratiquer un amortissement fiscal à hauteur de 80% du prix du bien, à condition de s'engager sur une location nue pendant au moins 9 ans. Et le grand avantage pour notre sujet, c'est que Libourne est officiellement éligible à ce zonage.
Mais que ce soit pour des biens neufs ou pour des biens anciens, qui nécessitent au moins 30% de travaux de rénovation d'ailleurs.
C'est un levier puissant.
Le dispositif Jean Brun offre en effet une nouvelle respiration fiscale, particulièrement intéressante pour revitaliser l'ancien avec travaux. Mais il s'inscrit dans un écosystème plus large. Il ne faut pas oublier le dispositif de Normandie.
Qui reste un classique.
Un classique qui est redoutablement efficace à Libourne, précisément, grâce à la présence du label Action Cœur de Ville dont on a parlé. Ce mécanisme permet de bénéficier d'une réduction d'impôt pouvant aller jusqu'à 21% du prix de revient du bien.
Sous quelles conditions ?
La condition, c'est d'acheter dans l'ancien et de réaliser des travaux représentant au moins 25% du coût total de l'opération, avec un engagement de location allant jusqu'à 12 ans. Ce dispositif a été prolongé jusqu'à fin 2027, ce qui laisse une belle visibilité.
Et pour le meublé ?
Enfin, il reste le régime roi de ces dernières années, le statut de loueur en meublé non professionnel, le fameux LMNP. Il permet d'amortir comptablement la valeur du bâti et des meubles pour réduire, voire annuler l'impôt sur les revenus locatifs.
Ah, justement, arrêtons-nous sur le LMNP. Les sources contiennent un avertissement très clair concernant une réforme passée en 2025 qui change radicalement les règles du jeu à la revente. Essayons de modéliser cela concrètement.
Allez-y.
Avant cette réforme, si j'achetais un appartement 100 000 euros, que j'amortissais comptablement 20 000 euros sur plusieurs années, et que je revendais l'appartement 120 000 euros, l'administration fiscale considérait que ma plus-value était seulement de 20 000 euros.
C'est ça, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente.
L'amortissement était un cadeau fiscal total. Mais avec la nouvelle règle de 2025, ces 20 000 euros d'amortissement sont réintégrés dans le calcul de la plus-value. Donc fiscalement, on considère que mon bien ne vaut plus que 80 000 euros au moment de la vente.
Exact.
Ma plus-value imposable passe soudainement de 20 000 à 40 000 euros. Ça change complètement la rentabilité finale du projet, n'est-ce pas?
Votre démonstration en mathématiques est implacable et illustre parfaitement le piège dans lequel de nombreux investisseurs non avertis risquent de tomber aujourd'hui.
C'est un sacré coup de bon bout à la sortie.
Complètement. Le LMNP reste un outil exceptionnel pendant la phase d'exploitation pour se constituer des revenus non fiscalisés, mais la sortie, la revente, est devenue extrêmement punitive fiscalement. L'amortissement n'est plus un cadeau, c'est un report d'imposition.
Il faut donc anticiper.
C'est la raison pour laquelle investir en 2026 ne s'improvise plus sur un coin de table. Il faut modéliser la durée de détention et la fiscalité de sortie avant même de signer l'acte d'achat. D'où l'insistance dans le rapport d'Aura Finance sur la nécessité de s'entourer de courtiers et de conseillers en gestion de patrimoine. L'ingénierie financière est devenue tout aussi complexe et déterminante que le choix du quartier ou la négociation du taux de crédit.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie quand on prend un peu d'auteur? Si l'on rassemble les fils de notre discussion, le constat est clair. Libourne a changé de statut. Ce n'est plus la salle d'attente de Bordeaux. C'est devenu une destination stratégique à part entière.
Une vraie place forte.
On y trouve une équation rare. Une rentabilité locative immédiate, solide, autour de 6%, adossé à une demande locative diversifiée et couplé à un potentiel de valorisation future indéniable grâce aux dizaines de millions d'euros injectés dans le pôle d'échange multimodal et le centre-ville.
C'est le résumé parfait de la situation actuelle.
Et la raison pour laquelle cette analyse est cruciale, même pour quelqu'un qui n'envisage pas d'investir dans le sud-ouest de la France, c'est qu'elle fournit un modèle mental transposable. La grande leçon de l'immobilier, c'est qu'il ne faut pas chercher à acheter là où le train de l'aménagement urbain est déjà passé et où les prix ont déjà flambé. Le vrai talent de l'investisseur, c'est de regarder les cartes ferroviaires, d'identifier les villes périphériques situées à 30 minutes d'une métropole saturée et d'investir là où les grues commencent tout juste à s'installer.
C'est la définition même de la prospective immobilière. Anticiper les flux de demain plutôt que de payer au prix fort les tendances d'hier. Toutefois, cette analyse très rationnelle de la mécanique immobilière libournaise, telle qu'elle ressort de nos sources, nous amène logiquement à formuler une ultime réflexion.
Je vous écoute.
Un paradoxe que les décideurs locaux vont devoir affronter très prochainement. En favorisant et en organisant cet afflux massif de jeunes actifs bordelais qui viennent chercher des mètres carrés abordables à moins de 30 minutes de TER, Libourne est en train d'importer la pression foncière de la métropole.
Ah, le revers de la médaille.
La question qui se pose alors est la suivante. Si les investisseurs se ruent sur ce marché et font inexorablement grimper les prix de la pierre, les habitants locaux originaires de la commune auront-ils encore les moyens de s'y loger demain? En d'autres termes, le succès triomphal et la forte rentabilité de l'année 2026 ne portent-ils pas déjà en eux les germes d'une crise du logement et d'une saturation totale pour l'horizon 2036?
C'est une perspective qui donne vraiment matière à réfléchir sur l'équilibre et les cycles de vie de nos villes. L'investissement d'aujourd'hui crée parfois les barrières de demain. Voilà de quoi nourrir les réflexions sur la dynamique des territoires pour tous les passionnés qui nous suivent. Un grand merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse approfondie des stratégies immobilières. Continuez de scruter les données, restez curieux face aux mutations urbaines et à très bientôt pour une nouvelle exploration.